www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute.
Alors nous sommes le dimanche 16 mai 2021. Dans 5 jours, le vendredi 21 mai prochain, se tiendra, à l'initiative de la Grève pour l'avenir, une journée de grève et d'action pour la justice climatique et la justice sociale dans différents lieux à Genève. Alors, nous allons évidemment revenir sur le programme de la journée. Mais avant tout, devisons avec quelques activistes de la Grève pour l'avenir. Alors, voudriez-vous peut-être commencer par vous présenter à votre guise, qui êtes-vous? Et puis, j'aurais envie de vous demander quelle est la trajectoire qui vous a mené à votre position actuelle.
Bah, du coup, salut, moi c'est Myriam. Je suis repartie étudiante en biologie à l'Université de Genève. Et sinon, l'autre moitié de mon temps, je suis activiste au sein du collectif Break Free et de la grève du climat. Et du coup, c'est deux collectifs qui militent pour le climat et qui sont membres de la grève pour l'avenir. Du coup, forcément, je me suis retrouvée attirée dans la grève pour l'avenir. D'autant plus que c'est vraiment, à la grève du climat, surtout à Genève, c'est quelques derniers mois concentré 100% sur la grève pour l'avenir. Du coup, moi aussi avec.
Alors, Geneviève, à ton tour.
Alors, moi, je suis arrivée à la grève pour l'avenir par le biais du syndicat CIT. Je suis rattachée à ce syndicat et puis j'y ai diverses activités, mais plus particulièrement au sein du comité hospitalier du CIT, qui travaille sur les HUG. Parce que dans mon métier, moi, j'appartiens à une unité qui est rattachée à l'hôpital. Et puis, j'étais ravie que les jeunes de la grève pour le climat demandent aille chercher un petit peu appui auprès des syndicats, parce qu'évidemment, c'est hyper important de travailler pour le climat, mais c'est aussi hyper important de travailler pour le climat pour que ça puisse convenir à tout le monde. Et c'est pas évident de pouvoir dire à certaines personnes de changer des habitudes quand ces personnes n'ont pas les moyens en fait de les changer. Donc il faut trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler au sein des syndicats en sensibilisant un petit peu tout le monde au problème du climat et à trouver des solutions qui s'intéressent aux personnes.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Patrick Chapuis, je suis enseignant. Je suis représentant du SSP au sein de la Grève pour l'avenir. Et je suis venu à ce mouvement parce que je voyais en fait avec mes élèves qui commençaient à faire grève. À l'époque, ça s'appelait la grève pour le climat. Et je les entendais, je voyais leurs préoccupations. Et j'étais aussi, moi, concerné par ça. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que nous, les adultes, qui devrions montrer l'exemple, techniquement, on ne fasse rien. Et avec mon autre casquette aussi de syndicaliste, je me suis dit, mais est-ce que voilà, il n'y aurait pas finalement quelque chose à faire sur les deux tableaux? Et c'est comme ça que je me suis mis dans la grève pour l'avenir.
Le site internet, c'est www.grèvepourlavenir.ch. On y trouve effectivement à peu près toutes les informations. Voilà, pour clarifier, pour se donner quelques jalons, pour commencer cet entretien, voudriez-vous nous dire qu'est-ce que le GPA, quelles en sont les postures et les dessins, les positions et les aspirations de la grève pour l'avenir?
C'est, et comme j'avais dit précédemment, la grève pour le climat qui a lancé ça en voyant que c'était les jeunes générations qui allaient subir principalement les effets du réchauffement climatique et que c'était absolument inacceptable de laisser ce crime contre l'humanité se produire sans réagir de manière efficace. Au fur et à mesure du temps qui passe, on s'est rendu compte, vu que la situation devient de pire en pire, que ce n'est pas simplement les générations futures, voire très lointaines, qui vont subir les conséquences, mais nous aussi, actuellement. Donc il faut tout de suite qu'on réagisse. Voilà pourquoi les syndicats se sont aussi sentis concernés, ont décidé de participer. Et on a vu, évidemment, suite à la crise de la Covid-19, à quel point est-ce que les plus précaires, et surtout à quel point les personnes qui travaillent dans les services publics était nécessaires à ce que la société fonctionne, parce que sinon, si on va dans une société qui est de plus en plus agressive, compétitive et libéralisée, on va se retrouver avec tout simplement le pouvoir de l'argent qui remplacera tous les biens communs et toutes les associations, toutes les solidarités. Et ça, c'est absolument inacceptable.
Juste pour compléter, j'abonde dans le sens de ce que vient de dire Patrick, hein, c'est vraiment une question existentielle. Là, j'ai un dessin sous les yeux qui dit qu'à 37 degrés, ça joue, à plus 2 degrés, à 39, on est malade, à plus 4... on est en danger de mort, on est à 41 degrés, à plus 5 degrés, c'est trop tard, on est tous morts. les plus fins degrés sont prédits pour dans pas si longtemps que ça.
Un autre aspect très important aussi, c'est que justement, si maintenant les jeunes et les syndicats se sont mobilisés, c'est évidemment parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait plus attendre sur une réaction des politiques. Il fallait que nous prenions le problème en main nous-mêmes, parce que si on le confie au rythme sénatorial des politiciens, la réponse arriverait bien après le déluge. Donc il faut que maintenant nous et la société civile nous emparions de ces questions-là pour être capable d'y répondre de la manière la plus efficace possible.
On peut dire qu'une des singularités de la grève pour l'avenir, c'est d'être une fêtière et d'être une convergence des luttes. Est-ce que pour vous, c'est essentiel, le fait justement d'adopter ces modalités-là, de regrouper un maximum de personnes sur des lignes convergentes? Et est-ce que c'est difficile d'avancer ensemble?
Très intéressante et bonne question. Oui, je pense que c'est absolument nécessaire parce qu'on a tous la même envie pour cet avenir. En fait, justement, on le voit quand même dans les grandes lignes de la même manière. Et en fait, on se bat contre un système qui est tellement fort, le capitalisme, qui est tellement oppressif qu'en fait, si on ne se met pas ensemble, on ne va pas y arriver. Chacun de notre côté, c'est impossible. On ne va pas réussir à construire cet autre monde. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est nécessaire qu'on se mette ensemble, mais aussi parce que c'est un partage des connaissances et des expériences qui est très différente entre les syndicats qui ont leur spécialité, les mouvements peut-être plus étudiants, des obéissances civiles. Chacun apporte ses avantages et du coup, on devient tous plus forts.
C'est extrêmement enrichissant. Je dois dire que j'ai énormément appris de manière de collaborer, que ce soit au niveau des outils ou que ce soit au niveau des pratiques. Je suis vraiment très impressionné par l'organisation que les jeunes pour le climat ou même d'autres associations ont pu élaborer à travers ce temps. Les syndicats, on a nous une sorte de on a une force de frappe évidemment, on a une trésorerie, on a des habitudes et on s'enrichit vraiment avec ce vent nouveau que nous apportent les associations et c'est extrêmement enrichissant. Donc moi je peux vraiment que recommander ça pour tout le monde. C'est extrêmement c'est vraiment la convergence des luttes et c'est extrêmement bénéfique.
Et ça va dans les deux sens. Les syndicats nous apportent les contacts, les savoir-faire dans la politique plus institutionnelle, comment ça marche, et plein de choses qu'on ne connaissait pas forcément.
Et je voulais dire aussi que être ensemble, c'est essentiel par rapport aussi à l'évolution de la société. Il y aura quand même de plus en plus de vieux et de moins en moins de jeunes, entre guillemets. Et que donc, s'il n'y a que les jeunes qui se mobilisent et puis que les vieux continuent à consommer, on ne va pas s'en sortir. Donc à nos âges, dans 10 ans, dans 20 ans, on est à la retraite, on sera un maximum de gens à la retraite. Si on utilise notre temps libre comme on pensait l'utiliser il y a quelques années, à faire des voyages, à consommer, sans rien penser à d'autres et sans changer notre manière d'avoir du plaisir à être ensemble, ça va pas jouer. Donc ce que les jeunes nous amènent dans une autre manière de penser les choses, c'est changer nos habitudes et puis il faut qu'on le fasse tous ensemble.
Voudriez-vous nous dire qui sont à la louche les autres entités qui font partie de la grève pour l'avenir? Parce que là on a effectivement deux syndicats qui sont représentés et également, donc Myriam, toi tu disais que tu faisais partie de la grève climat. Quelles sont les autres entités avec lesquelles vous travaillez et quelles sont les principales difficultés, les principaux défis que vous arrivez à surmonter? Il me semble que vous arrivez bien à les surmonter d'ailleurs.
Du coup dans les mouvements climat, il y a aussi, donc moi je fais aussi partie du collectif Break Free et il y a aussi Extinction Rebellion qui est dedans. Il y a aussi la grève féministe et ses différents sous-groupes comme les groupes Ecofem. Dans les syndicats, il y a aussi le syndicat UNA, Unitaire, et Patrick et Geneviève, vous compléterez.
Également des individus qui ne sont pas déjà dans une organisation, ces individus-là peuvent-ils rejoindre la grève pour l'avenir?
Oui, absolument. Mais l'objectif, c'est évidemment de toucher le plus de personnes, d'où la nécessité de passer par les organisations déjà installées. On a parlé des syndicats, on a parlé des associations, mais il y a aussi les partis politiques qui soutiennent. C'est vrai que là, on a des fois des espoirs. On se dit si ils nous soutiennent, on va pouvoir aller plus vite. Mais il y a aussi les contraintes de la politique. Il y a aussi d'autres considérations à prendre en compte. Et c'est vrai que par moment, on se retrouve avec des agendas et des préoccupations qui ne sont pas les mêmes pour tous. On s'appelle la grève pour l'avenir. C'est évidemment parce que c'est en lien avec les travailleurs et les travailleuses. Mais il y a aussi tout l'aspect des jeunes qui eux font grève à l'école, et puis il y a aussi l'aspect institutionnel, l'aspect politique, où on espère avec ces grèves qu'elle soit de plus en plus fournie, de plus en plus forte, afin de faire pression sur le monde politique. Il faut vraiment qu'on essaye maintenant, vu l'urgence de la situation, de taper sur tous les fronts.
Peut-être dire aussi dans les difficultés qu'il y a une difficulté entre le court, le moyen et le long terme. C'est-à-dire que dans les syndicats, il y a des grosses difficultés. Là, je pense particulièrement au secteur des soins, hein, avec le Covid qui est passé. Les gens, pas mal de gens sont tombés malades, sont fatigués, travaillent sans arrêt. Donc, il faut un tout petit peu lever la tête au-dessus de ça pour penser à un avenir qui est pour moi qui est tout proche, quoi. C'est demain les problèmes du climat, mais qui pour certaines personnes sont moins prioritaires que par exemple le temps d'habillement qui n'est pas compté dans le décompte des heures depuis des années. C'est un combat depuis des années. La valorisation du travail de soins, c'est aussi un combat depuis des années. Et c'est une des difficultés par lesquelles on doit passer pour arriver à sensibiliser tout le monde.
Je suis totalement d'accord évidemment avec ce que Geneviève vient de dire. Je rajouterais encore que la crise qu'on vit actuelle, donc la crise Covid, c'est vraiment une crise éco-sanitaire. C'est-à-dire que non seulement le climat et l'environnement, ce sont des préoccupations futures, mais ce sont également des préoccupations passées. C'est à cause de la destruction de l'environnement que les zoonoses, donc ces virus qui passent des animaux sauvages dont on a détruit les habitats, se retrouvent à être beaucoup plus fréquents ces 20 dernières années et qu'on se retrouve dans une ère d'épidémie. Alors oui, maintenant tout le monde a la tête dans le guidon, les syndicats y compris, les travailleurs et travailleuses y compris, parce qu'il y a la crise économique qui est venue après la crise sanitaire, mais après la crise économique, il y aura de nouveau d'autres crises sanitaires, une crise environnementale qui seront d'autant plus cruelles et violentes si on n'a pas réussi, nous, à nous préparer et à changer nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de vie, tout simplement. Donc on est vraiment dans des urgences là, pas simplement pour le climat d'ici peut-être 2030 ou 2050, mais pour ce que certains spécialistes ont appelé l'ère des épidémies. Et c'est absolument inacceptable.
J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ces deux notions, puisqu'elles sont dans le nom, hein, grève pour l'avenir. J'aimerais que vous nous disiez pour vous, alors pour les syndicats ça paraît peut-être plus évident, mais voilà, ce terme et cette notion de grève, qu'est-ce qu'il signifie au fond pour vous? Et également, par avenir, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? J'ai bien compris que c'est un futur dont on voit bien qu'il est en danger et que l'on souhaite l'infléchir, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Alors voilà, ces deux notions, voudriez-vous, en quelques mots, vous déterminer par rapport à elles? La grève et l'avenir.
Dans la grève du climat, et encore en tant qu'étudiante, bien sûr, c'est plus symbolique, les grèves qu'on fait, dans le sens que ça m'impacte plus moi de faire la grève, c'est moi qui vais louper mes cours, ça va pas déranger, surtout maintenant à l'Uni, ça va déranger personne que je fasse grève. Par contre, à 2 semaines des examens, ça me met en danger. Mais c'est vraiment pour dire, en fait, je fais grève parce que ça sert à rien que j'étudie. Ce que j'étudie, en plus, moi, je suis en biologie, ce que j'étudie, c'est des organismes vivants qui auront disparu le temps que je finisse mes études. Donc, en fait, ça sert à rien que j'étudie si vous changez pas, si on change pas ce monde pour qu'il soit justement viable dans l'avenir. Après, pour moi, cet avenir, justement, il doit être durable. Enfin, il doit être écologique. Il doit aussi être surtout égalitaire et il doit être communautaire. Enfin, il doit être ensemble. Il doit être lié entre les humains. Et si on est lié entre nous, c'est-à-dire qu'on est aussi justement égalitaire et aussi lié aux autres organismes qui peuvent se taire et que du coup on les écrase plus, on les utilise plus, mais on vit avec eux.
Un autre point, c'est vrai que comme on a dit, ça a commencé ces manifestations et ces grèves avec la grève du climat. À l'époque et aussi. Aussi courageux qu'aient pu être justement les jeunes qui se sont lancés dans ces manifestations et dans ces grèves, le terme pouvait peut-être être mal compris par les gens qui disaient « mais pourquoi est-ce qu'on fait grève pour le climat ?» Alors que là, ça me paraît beaucoup plus clair quand on dit « on fait grève pour notre avenir ». Le climat, lui, qu'il soit déréglé ou pas, ça changera pas. La Terre continuera à tourner. Par contre, nous, les êtres humains, notre survie, celle de nos enfants est en danger. Donc on parle vraiment bien de notre avenir. Le climat, il sera toujours là, la planète sera toujours là, mais peut-être que les êtres humains n'y seront plus. Ou alors, s'ils y sont, et là on rentre dans toutes les dystopies les plus horribles qu'on peut imaginer, on va se retrouver avec vraiment une monnaie qui sera peut-être l'oxygène. Voilà, on se baladera tous avec 2 ou 3 bouteilles d'oxygène et on se filera, on calculera en centimètres cubes d'oxygène le prix du pain. Voilà, c'est absolument... inacceptable.
J'aimerais ajouter quelque chose. Faire grève, c'est un petit temps d'arrêt, mais c'est aussi un temps d'action. Mais surtout, pour moi, ça exprime aussi la possibilité de transformer des émotions, comme par exemple la colère, ou bien aussi la peur, hein, parce que c'est les deux émotions qu'on peut ressentir face au pronostic. Et puis, retrouver de l'espoir dans le collectif, c'est-à-dire on se met ensemble pour transmettre de l'espoir, donc c'est très positif. Donc là, c'est dire aux gens qui sont dans ces émotions un peu de peur, de colère, de désespoir, de dire « mais on peut encore faire quelque chose ». Et puis, à chaque fois qu'on a fait grève en masse, à chaque fois, ça a changé quelque chose.
Pour moi, c'est effectivement un temps de pause, ces grèves où on se retrouve, justement, et ça, je pense que c'est très important. Ce qu'on veut transmettre, c'est que, en fait, on peut encore faire quelque chose de beau dans ce monde. En fait, on va le faire. On va faire des moments, justement, nous, à l'université, on va se former autrement. Les groupes Ecofem vont faire aussi plein d'autres événements. Enfin, tout le monde va faire des événements de son côté pour montrer, en fait, comment est-ce qu'on veut que ce monde soit. Et en fait, ce monde, il sera justement pas dans la peur et pas dans la colère. Il sera justement dans des liens forts et quelque chose de beau, en fait. Et je pense que c'est aussi ça, c'est prendre cette journée pour montrer comment on veut qu'il soit notre avenir.
C'est très intéressant ce que viennent de dire mes amis, c'est vraiment très juste et je trouve que c'est très important de le souligner. On est vraiment dans des mouvements démocratiques. On n'est pas du tout comme nos opposants cherchent à nous décrire des djihadistes verts qui veulent imposer une dictature éco-fasciste. C'est pas du tout ça. Le fascisme, il est dans le capitalisme. C'est vers ça qu'il entraîne tous les États qui sont dans son système économique. C'est sa forme finale, le fascisme. Nous, au contraire, on est pour une démocratie, mais une démocratie complète, c'est-à-dire aussi une démocratie sur les lieux de travail. C'est pour ça qu'il faut faire grève et manifester, pour que les employés, les travailleurs et travailleuses se rendent compte qu'ils sont non seulement les principales victimes de ce qui se passe, de dérèglement climatique et dérèglement environnemental, mais qui sont aussi les principales acteurs du changement qui peuvent réussir en s'unissant à changer la donne.
Alors nous allons effectivement revenir sur ces notions également de justice sociale et de justice climatique pour que vous alliez plus loin dans ce que vous venez d'ébaucher. Peut-on dire, si je reformule un petit peu vos réponses, que la grève, c'est également le fait de partager un commun de lutte. Voilà, il y a autour de la grève eh bien, des solidarités qui se sont façonnées, vous l'avez dit, et pas d'aujourd'hui, et qu'elles sont effectivement dans l'action, vous l'avez dit également. Voilà, donc la grève comme commun des luttes, je trouve ça assez intéressant. Et effectivement, l'avenir, eh bien, c'est également eh bien, changer demain, c'est changer aujourd'hui. Donc il y a cette urgence du quotidien et du travail au quotidien. Est-ce que vous amendez ou est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire ?
Peut-être si je peux rajouter quelque chose, justement, sur ces luttes communes et ces biens communs, c'est extrêmement important pour nous, SSP, qui défendons les services publics, parce qu'on s'est rendu compte avec cette crise éco-sanitaire de la Covid-19, que ce qui permettait d'éviter l'effondrement de nos sociétés, c'était les services publics. C'était justement ces services communs, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'administration, que ce soit à l'école, que ce soit dans tous les services qui ont tenu bon et qui ont fait que la population s'est sentie en confiance et a pu continuer. Et c'est là où on s'est rendu compte aussi de ce que on pourrait appeler, enfin, ce que certains connaissent sous la dénomination de la valeur concrète du travail, on s'est rendu compte de ce qu'étaient les vrais emplois utiles à la société.
Climat et justice sociale, intimement liés selon vous, voudriez-vous nous expliquer en quoi, pour des personnes voilà, qui se diraient « mais qu'est-ce que c'est que ces deux choses ? Peut-on les accoler ? Est-ce légitime ?» voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire concernant la justice climatique et la justice sociale ? Pour vous, ce sont les deux mamelles d'un même problème.
Ouais, ce que j'ai envie de dire très concrètement, parce que le sujet peut être vaste et pris à plein de niveaux, hein, mais sur un niveau très concret, pour illustrer ça, c'est l'exemple de l'aéroport, hein, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui se retrouvent sur la touche. Moi, j'ai absolument aucun espoir à voir redémarrer les avions comme avant. Ça m'intéresse pas du tout. Je trouve qu'on a vécu des trucs tellement beaux avec un ciel pur pendant cette période de Covid. Mais en même temps, je suis atterrée de voir des gens sur le carreau et aucune solution qu'on leur propose, qui se battent en plus pour une convention collective. Enfin voilà. Donc d'un côté, il y a les services publics dont on a énormément besoin, puis d'un autre côté, on a des personnes qui restent sur le carreau. Donc la justice climatique qui veut qu'il y ait un petit peu moins de dépenses d'énergie dans les transports ou dans les voyages, eh bien, elle aimerait que il y ait du travail qui n'est pas générateur de pollution ou de gaz à effet de serre pour des gens qu'on doit replacer, mais pas replacer n'importe comment. Il faut des formations, il faut voir quelles sont leurs motivations aussi. Enfin, il y a du job ailleurs. Mais pour qu'il y ait du job ailleurs, il faut qu'il y ait des fonds qui soient déclenchés et voilà, qu'aussi la la redistribution des fonds et de l'argent, elle aille au bon endroit pour que tout le monde puisse vivre sans polluer et sans générer trop de gaz à effet de serre. Voilà, je ne sais pas si cet exemple concret de l'aéroport, il peut illustrer ça pour les auditeurs et auditrices.
Je rajouterais que justement, en fait, cette justice climatique et sociale, pour moi, c'est le tronc de la chose qu'on regarde, en fait, quelle que soit la temporalité qu'on regarde. Qu'on regarde le passé, ce qui s'est passé dans le passé et les conséquences aujourd'hui, on a besoin de justice climatique et sociale. Ça veut dire que, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une crise climatique, mais on a aussi une crise sociale. Et donc, forcément, on a besoin des deux. Comme disait Patrick avant, on a aussi une crise sociale maintenant encore plus forte due à la crise sanitaire, mais qui, elle, due à la crise climatique. Donc, du coup, en fait, on ne peut pas défaire l'un de l'autre. On doit à la fois régler les problèmes de la crise sociale et celle de la crise climatique. Et ensuite, justement, si on regarde vers l'avenir et que, du coup, on choisit un des deux socles, la crise climatique, et qu'on essaie de la résoudre, si on ne prend pas en compte la justice sociale, on va aller dans la mauvaise direction parce que, justement, on va vouloir mettre des taxes ou alors on va fermer l'aéroport, mais ça, on n'en aura rien à faire des personnes qui travaillent là et qui se retrouvent, du coup, sans emploi. Donc, en fait, on est obligé de prendre les deux pour réussir à créer un avenir, justement, juste et durable.
Oui, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Geneviève, qui est très important. Si on prend cet exemple de l'aéroport, le SSP, à l'aéroport, demande évidemment la reconversion des emplois qui sont trop polluants. C'est un énorme changement du point de vue des syndicats. Pendant très longtemps, les syndicats ont eu comme optique la production, en se disant que plus le gâteau était gros, plus il y aurait de parts à partager. Sauf que maintenant, on se rend compte que pour faire grossir le gâteau, on est en train de le rendre immangeable. Il est vraiment infect, ce gâteau capitaliste. On n'en veut plus, il nous rend malade, il nous file des cancers. Donc ce gâteau, il faut le jeter. Et c'est démocratiquement qu'il faut qu'on rediscute de qu'est-ce qu'on veut créer comme emploi. Il y a notamment une proposition de création de 1000 emplois verts par an qui est soutenue par les syndicats. Évidemment que ces emplois-là, ils vont favoriser toute la population. Ils vont pas favoriser uniquement les plus riches. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur vraiment toute la population? Parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec cette crise éco-sanitaire de la Covid, que c'était les plus précaires, les plus fragiles, qui sont de toute façon en première ligne, que ce soit à l'hôpital, que ce soit partout, c'était dans tous les emplois, c'est toujours la même chose, c'est toujours les plus précaires, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas un capital culturel, symbolique, économique pour se retourner ou pour s'allonger, le fameux oreiller de paresse dont nos politiciens nous ont parlé. Voilà, ils en ont pas ça. Donc ça doit être à la société d'être justement cette protection.
L'initiative pour les 1000 emplois est bien sûr soutenue par la grève pour l'avenir dans l'ensemble.
Une dernière question avant que l'on passe vraiment à cette journée du 21, à son programme. Doit-on se préoccuper de l'économie quand on se préoccupe du climat? Le deuxième volet de la question, c'est que répondez-vous aux détracteurs qui vont vous dire, avec justement ces changements que vous appelez de vos voeux, on va faire s'effondrer l'économie. Ou alors faut-il dépasser ce paradigme, changer de praxis et puis tout envoyer bouler d'une certaine manière et puis reconstruire les choses?
C'est toujours, je pense, une question très compliquée, mais en même temps, pas tant que ça, parce que justement, en fait, il y a plein d'emplois à créer, il y a plein d'endroits où on aurait besoin de plus de gens. Moi, le premier exemple qui me vient en tête, bien sûr, c'est l'agriculture. Parce qu'en fait, si on veut que l'agriculture soit durable, c'est-à-dire aussi avec moins de tracteurs, mais aussi juste qu'elle soit aussi plus viable pour les paysans, les paysannes, on a besoin de plus de monde, on a besoin de plus de gens dans les champs. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui on en a besoin de gens là-bas. Et en fait, il y a plein de secteurs comme ça où aussi la santé, bien sûr, les soins aussi plus généraux que la santé. Mais en fait, on a besoin de tous ces gens. Donc, c'est pas parce que on veut arrêter certaines activités, on veut stopper d'autres choses, que toutes ces personnes vont arrêter d'avoir un emploi et vont arrêter de participer à l'économie. Après, je pense que c'est toute l'économie qu'on doit aussi... parce que notre économie est fondamentalement liée au capitalisme. Et au capitalisme, et comme c'est ce capitalisme en tant que système aussi qu'on aimerait changer, forcément, l'économie comme on la pense actuellement est également à transformer.
De quelle économie est-ce qu'on parle? On parle de l'économie capitaliste, néolibérale, mondialisée. Chaque terme est important parce qu'on se rend compte que c'est justement à cause... le système capitaliste prédateur envers la nature, que des écosystèmes ont été détruits, ce qui a favorisé justement la transmission de virus d'animaux sauvages avec justement des êtres humains, d'où l'apparition de la Covid-19, d'où l'apparition d'autres pandémies précédemment, Ebola, Zirka, donc beaucoup de choses comme ça, mondialisées, parce qu'on sait très bien que c'est les échanges incessants de biens, de marchandises au niveau mondial qui favorisent justement le développement de ces épidémies pour qu'elles deviennent des pandémies. Et néolibérales, parce qu'on sait qu'une fois que ces épidémies, ces pandémies sont arrivées chez nous, nous, on nous a bassinés pendant des mois en disant « Regardez la vague, il faut qu'on reste sous la vague sans jamais questionner quelle était cette barre sous laquelle on devait passer. » Ben, cette barre, c'est les destructions du système public, les destructions des lits à l'hôpital, c'est ce qui cause des morts. Donc tout ça, ce capitalisme néolibéral mondialisé, c'est ça qui est l'ennemi de la nature, ça qui est l'ennemi de nos vies. Et on avait parlé l'année dernière déjà de deux bouquins qui sont vraiment très importants et très intéressants selon moi pour comprendre tout ça. C'est le bouquin de Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Et puis peut-être pour un bouquin un peu plus sympathique et accessible d'accès, c'est celui de Ziegler sur le capitalisme « Expliquer à ma petite fille ».
Merci pour ces références. On les mettra évidemment libellés du podcast, Frédéric Lordon et Jean Ziegler. Geneviève, tu voulais compléter également ?
Peut-être juste sur la question de tout détruire et tout reconstruire. Je pense que c'est important et ce qui a été dit aussi par Myriam et Patrick, c'est on n'a pas envie de détruire les autres. Hein. J'espère que tout le monde se reconnaît là-dedans. En même temps, il faut aller vite, donc il y a un paradoxe, en même temps, il faut aller vite, et on sait que pour changer les choses, parfois, il faut des mesures assez radicales, mais en même temps, l'idée, ce serait que tout le monde comprenne son intérêt. Et voilà, ce paradoxe-là, il va falloir le dépasser, parce que si les gens se sentent opprimés, rejetés, voilà, et qu'ils sentent pas leur intérêt dedans, ça risque de pas fonctionner, en fait.
Nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
www.libradio.org. Libradio, la radio qui rétablit l'équilibre.